l'évangile selon Matthieu au chapitre 6e, un texte que vous connaissez certainement fort bien. Il fait partie de cet enseignement tellement extraordinaire et profond qui s'appelle le sermon sur la montagne. Nous allons en parler et nous allons voir dans Matthieu au chapitre 6e et au verset 19, eh bien ceci, Matthieu chapitre 6 et le verset 19, il nous est dit ceci, vous connaissez ces paroles, hein. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, c'est-à-dire une mesure, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Gloire à Dieu. Que de recommandations extraordinaires qui nous sont données dans ce texte de la parole de Dieu, une invitation à la foi, à considérer ce qu'il y a de vraiment précieux dans cette vie. Et nous voulons nous laisser interroger par le Seigneur sur toutes ces choses. Vous savez que l'évangile selon Matthieu, eh bien, met en évidence le royaume de Dieu, la royauté de Jésus. Si vous aimez lire la parole du Seigneur, vous savez que il y a qu'une seule bonne nouvelle, qu'un seul évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Amen. Il est venu pour nous libérer, pour nous pardonner. Mais chaque évangéliste, c'est-à-dire écrivain de l'évangile selon eh bien Matthieu, Marc, Luc et Jean, chaque évangéliste eh bien aborde le Seigneur selon un angle différent. Par exemple, Jean parle à des croyants qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, qui sont affermis dans leur foi, et il les invite à rester attachés au même Jésus, alléluia, en disant, mais ce Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il affirme la divinité de Jésus face à toutes les fausses doctrines qui peuvent exister. L'évangile selon Luc nous parle eh bien, de Jésus dans sa proximité avec toutes sortes de situations. Il ne met personne dehors, le Seigneur. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, alléluia. L'évangile selon Marc marque eh bien, l'activité intense de Jésus. Le Seigneur n'est pas resté, eh bien, je ne sais pas, dans une grotte, loin des regards de tous, mais il s'est mis en mouvement, il s'est mis en action, alléluia. Et puis l'évangile selon Matthieu eh bien, nous invite à considérer que ce Jésus qui est venu, c'est celui qui avait été annoncé par la loi et par les prophètes. Alléluia. Et l'évangile selon Matthieu est rempli de références à l'Ancien Testament pour dire, mais ce roi qui avait été annoncé, eh bien, c'est lui
c'est le Christ, c'est Jésus. Alléluia.
Amen. Et l'évangile eh bien, de Matthieu, selon Matthieu, met en évidence la royauté et le royaume de Jésus. Et c'est un roi qui vient établir un règne pour libérer les hommes de leurs péchés. Un royaume dans lequel le péché ne nous rend plus esclaves. Un royaume dans lequel nous ne sommes plus soumis au diable. Un royaume dans lequel nous avons un avenir glorieux. Alléluia. Et ce royaume, eh bien, il existe en Jésus-Christ. Alléluia. Et mes frères et sœurs, voulons comprendre en ce qui nous concerne, est-ce qu'on a vraiment bien conscience de ce royaume ? Est-ce qu'on a conscience, eh bien, de son étendue ? Est-ce que nous avons conscience que le Seigneur nous appelle à prendre part à ce royaume ? De la même manière que, eh bien, par exemple, mais je parle de mes ancêtres comme si ça remontait à je ne sais pas quand, mais je m'appelle Gabrielli. Pas très française hein, d'origine. Hein. C'est plutôt transalpin. Hein. C'est italien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un monsieur en Italie, entre les deux guerres. Je sais qu'il y a des gens qui sont italiens. Là. Ils me regardent avec un regard. Là, là je vois Tony. Là. Tony Benavoli. Alléluia. Vincent. Alléluia. Leonardi. Et moi, et Venturelli. Alléluia. Voilà. Eh bien... Mon arrière-grand-père eh bien, a désiré vivre en France. Pourquoi ? Parce que c'était la misère en Italie, c'était le fascisme, et ce n'était pas ses idées. Et il a dit, ben, je vais aller dans un pays où on est plus libre, où on n'a pas de dictature. Un pays où, si on travaille, on aura un résultat à son travail. Et il est venu en France, il s'est établi, et puis bon, il s'est marié, etc. Gloire au Seigneur, alléluia, amen. Mais pour le royaume de Dieu, c'est la même chose. Et encore plus merveilleux, un royaume dans lequel tu as un avenir, alléluia. Un royaume dans lequel où tu as la bénédiction. Un royaume dans lequel où les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, amen. Et c'est ce royaume dont je voudrais que nous puissions parler. Alléluia. Et que nous puissions prendre conscience que ce royaume, il est réel. Et alors, on va parler eh bien, de tout cela, eh bien, du royaume de Dieu, de voir le royaume de Dieu, de servir dans ce royaume, de chercher eh bien, le royaume de Dieu et nous rappeler que dans ce premier point, le royaume de Dieu, eh bien, naturellement, nous sommes séparés de ce royaume. En cherchant des références, j'ai lu ceci dans le prophète Ésaïe au chapitre 59 et au verset 2. Il est écrit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Nous sommes nés eh bien, dans un royaume qui n'est pas celui de Dieu. Nous sommes venus eh bien, au monde, eh bien, dans un monde qui est sous la puissance du péché, sous la domination du diable. Et nous sommes eh bien, spirituellement parlant, loin de Dieu, séparés de lui. Mais Dieu, dans son amour, alléluia, a prévu dès l'origine, dès la chute de l'être humain, et même, l'Écriture nous dit, ce mystère nous dépasse, avant même que le monde existe, il avait entrepris de sauver les hommes en créant ce royaume dont le roi serait le Christ Jésus. Alléluia. Amen. Et nous le voyons eh bien, s'établir dans le livre de la Genèse, tandis que eh bien, Adam et Ève ont chuté devant le diable, ils ont succombé à la tentation, la mort est entrée, ils sont séparés, ils sont évacués de ce royaume. La Bible nous dit eh bien, que Dieu parle au diable et lui dira « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, cette postérité qui vient de la femme, pas de l'homme, de la femme. » On s'aperçoit que déjà Dieu prophétise eh bien, que Jésus viendra et naîtra d'une vierge, Marie, alléluia, sans le secours d'un homme. Et ce sera Dieu fait homme, alléluia, et il viendra pour écraser la tête du diable. Et il lui dit, mais toi, tu lui blesseras le talon. C'est dur d'être blessé d'être piqué par un serpent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, hein ? Non ? Un serpent venimeux. Si, généralement, on ne réchappe pas. Hein ? Jésus est venu pour briser eh bien, la puissance du diable, mais il a payé le prix pour ça. Il a payé notre prix à la croix du calvaire. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Amen. Alléluia.
Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, d'Abraham à Moïse, de Moïse à David, de David à Ésaïe, d'Ésaïe à Jean-Baptiste, Dieu n'a cessé de mettre en place son plan, de répéter à l'humanité, vous êtes sous le pouvoir du diable, sous le pouvoir du péché, mais je vous annonce une bonne nouvelle, un royaume va venir, alléluia, un royaume auquel vous pourrez prendre part, un royaume dans lequel un roi régnera pleinement sur vous pour vous offrir sa justice, sa paix, sa joie par le Saint-Esprit, alléluia, amen. Et afin que nous puissions comprendre que personne n'est mis de côté dans ce royaume, eh bien nous découvrons que ce royaume, il n'entre pas en monnayant des mérites, en monnayant de l'argent, en monnayant je ne sais quoi, mais c'est par la foi qu'on y rentre. Alléluia. Parce que Dieu a fait grâce pour toutes nos offenses. Jésus a payé le prix de notre dette, eh bien, à la croix du calvaire. Alléluia. Amen. Et cela, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire pour que nous puissions, eh bien, comprendre que mon frère, ma sœur, si tu vis des tensions, si tu vis des combats, si dans ton cœur, tu peux te sentir assailli parfois de pensées et tu te demandes d'où elles viennent, mais c'est parce que, en réalité, il y a un royaume qui s'est établi pour chasser les ténèbres. Il y a un conflit, il y a une lutte actuellement. Peut-être que, en venant dans ce lieu, avant de venir, il y a eu peut-être des empêchements, des obstacles, peut-être un voisin qui, soudainement, vous ne l'avez pas reconnu, il a pris une autre tournure, un autre état d'esprit, il s'est mis en colère contre vous, peut-être vous-même, vous êtes surpris à vous énerver sur un truc où d'habitude vous êtes complètement calme, dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me pousse à m'irriter comme cela, et on s'aperçoit qu'il y a une tension. Souvent ça nous arrive avec Guillaume. Quand on est en train de faire une visite, on va prier pour un frère ou une sœur, on va se mettre à lire la Bible. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est pas avant, c'est pas après, c'est pile au moment. Alors parfois, on comprend, on dit non, on arrête. Hein. C'est le diable qui veut nous troubler, qui veut nous empêcher de saisir quelque chose de la part du Seigneur. Ça vous est jamais arrivé, vous ? Voilà. Certains même me disent, pasteur, c'est au moment où je me mets à lire la Bible que dans ma tête, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ben, peut-être qu'il faudrait prier avant le Seigneur en disant, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole et que rien ne vienne faire obstacle eh bien, dans mes pensées pour que je puisse saisir ce que tu veux me dire. Alléluia. Et on comprend qu'il y a une tension spirituelle, il y a un rapport de force qui est là. Mais je voudrais vous dire la bonne nouvelle, c'est que le rapport de force, il est en notre faveur, ou plutôt en faveur de Jésus. Alléluia, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il y a une femme dans la Bible qui l'avait bien compris. Je voudrais simplement qu'on lise, si vous voulez bien, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15e. C'est cette femme qui était syro-phénicienne. Elle avait bien compris les choses. Elle avait une petite fille qui était possédée. Elle était pas juive. On aurait pu dire, oui, c'est vrai, c'était une païenne. Et tandis que le Seigneur se trouve dans cette région de Tyr et de Sidon, c'est le Liban actuel, eh bien Matthieu 15, 22 nous dit « Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Fils de David, ça veut dire « Tu es le Messie ». Ça veut dire, c'est un terme qui désigne eh bien Jésus est issu de David et que c'est lui qui va régner. Seigneur, ça veut dire celui qui a toute autorité. Et elle dit, aie pitié de moi. La dernière fois, dimanche dernier, je me souviens avoir cité ce texte, Hébreux 4, 13. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Le trône, ça nous parle d'autorité. La grâce, ça nous parle du secours de Dieu que Dieu nous offre gratuitement, par amour. Alléluia. Et cette femme, en disant, tu as toute autorité, tu es venu pour détruire le diable, tu es venu pour établir ton royaume, tu es le fils de David, celui qui a été promis, qui doit donner sa vie en sacrifice pour nous, mais aie compassion de nous. Alléluia. Ce trône est établi, ce royaume est établi pour que tu puisses trouver secours dans tous tes besoins. Alléluia. Amen. Et cette femme, eh bien, va découvrir la puissance du Seigneur. Je passe sur certains détails où sa foi va grandir, va être éduquée par le Seigneur. Et elle ne va pas douter. Jésus lui dira, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Elle demande que Satan recule dans sa famille et dans la vie de sa fille. Et quand elle rentre chez elle, il s'est passé quelque chose. Sa petite fille est passée de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alléluia. De la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et c'est cela qui existe sur la terre. On ne peut pas appartenir, on le verra tout à l'heure, à deux royaumes en même temps. Soit on appartient à l'un, soit on appartient à l'autre. Alléluia. Et l'Église, elle est entrée dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons dire, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et je voudrais peut-être m'adresser à celui, celle qui peut-être eh bien, est là, et spectateur, et se dit, mais en réalité, moi, je ne sais pas si j'appartiens au royaume de Dieu. Et j'ai l'impression qu'au contraire, eh bien, ma vie, elle est pilotée par une puissance. J'ai des désirs, j'ai une mentalité, et parfois, je ne me reconnais pas. Je fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je ne veux pas. Je suis comme prisonnier. Entre dans le royaume, alléluia. Jésus veut te faire entrer dans son royaume. Un royaume où tu seras libéré, un royaume où tu seras pardonné. Jésus en est l'entrée, il en est la porte. Alléluia. Amen, lui, le Fils de Dieu. Dieu qui s'est fait homme, alléluia. Alors, croyons que eh bien, ce royaume, il est extraordinaire. Il est là, il est présent au milieu de nous. C'est un royaume eh bien, qu'on ne voit pas. C'est un royaume de grâce, c'est un royaume d'amour. Jésus, Dieu fait homme, venu sur cette terre pour eh bien, nous sauver, eh bien, accomplit tout cela. Mais nous avons besoin de le voir. Nous avons besoin de le voir. Et quand nous avons lu tout à l'heure notre texte, voyons que Jésus parle à ses disciples. Pourtant, ils sont là rassemblés sur ces lieux élevés en Israël, en Galilée. Donc, c'est au nord d'Israël. Et Jésus les enseigne sur le royaume de Dieu. Et il leur dit, mais ceci, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et il dit ceci, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il ajoute, eh bien, l'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Amen. Hélas, mais amen quand même, parce que c'est la vérité. Et le Seigneur est en train d'indiquer un état spirituel dans lequel on ne voit pas le royaume, où tout se mélange, où tout est confus, tout est troublé. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est un petit peu à l'image de notre monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hier, le jeune frère qui nous a apporté la parole de Dieu a cité ce texte du prophète Ésaïe, où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, on change en amertume, ce qui est, on dit que la douceur, c'est l'amertume, l'amertume, c'est la douceur. Vous voyez, on change toutes sortes de choses. Et parfois même, dans la tête et dans le cœur de certains enfants de Dieu, eh bien, on peut estimer que, et j'ai noté cela, eh bien, que le succès qu'on peut avoir sur la terre, eh bien, notre réussite, eh bien, sur la terre, correspond à la réussite dans le royaume de Dieu. Vous voyez, comme si on devait, eh bien, si on devait établir une espèce de notation, eh bien, on disait, mais plus j'ai de succès sur cette terre, eh bien, plus j'ai du succès dans le royaume de Dieu, ou faire un espèce de mélange, vous voyez. Ce qui est important dans ce monde, c'est ce qui est important dans ma vie chrétienne également. Et ici, Jésus parle eh bien, de s'amasser des trésors sur la terre. Alors, dans l'Écriture, voulons faire attention parce qu'on s'aperçoit que les valeurs du monde ne sont pas celles du royaume de Dieu. Amen. Les valeurs du monde ne sont pas les valeurs du royaume de Dieu. Il y a un exemple très simple dans le livre de l'Apocalypse. Il nous est parlé de deux églises, notamment. Il y a une église à qui le Seigneur dit « Tu es riche, je sais que tu es riche. » Et une autre, il dit « Tu es pauvre. » Et on pourrait se dire, c'est peut-être l'église qui est riche, qui va bien spirituellement, et c'est l'église qui est pauvre, qui n'a rien compris. Voyez ? Eh bien, ce n'est pas ça du tout. L'église de la Odyssée, vous l'avez reconnue, hein, à qui le Seigneur dit « Eh bien, tu es riche. » Alors, attendez, je tourne mes pages, là. Donc, c'est dans Apocalypse, au chapitre 3. Il dit, mais parce que, verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » et que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu, et le Seigneur lui donne certains conseils. Et il lui dit, mais ta situation, elle est difficile parce que tu n'es ni froid ni bouillant, et parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Et le Seigneur reprend. Et puis il y a cette église de Smyrne, alors elle qui est à l'opposé, parce qu'elle n'est pas du tout dans l'opulence, elle passe plutôt par la persécution. Et Jésus, dans au chapitre 2, verset 9, lui dit, mais je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ah tiens, on peut être pauvre et riche en même temps. Bah, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Choisissez. Bah, ça veut dire qu'on peut passer par des difficultés de toutes sortes de manières. Ce n'est pas simplement une difficulté financière. Attendez, mes frères et sœurs, j'espère que nous comprenons bien que l'argent n'est pas en soi-même un problème. C'est la place que nous attribuons à l'argent qui peut constituer un problème. Le Seigneur ne dit pas que c'est l'argent, mais plutôt l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est complètement différent. Parce que dans l'Écriture, on voit des gens eh bien, extrêmement riches. Je me souviens des quantités astronomiques que David, avant de mourir, lègue à Salomon pour qu'il construise le temple de l'Éternel. Mais ça se chiffre en centaines de kilos d'or et d'argent, etc. Et il donne tout ça. Bah, on pourrait dire merci Seigneur pour David. Merci Seigneur parce que bah, sa richesse, il l'a mise à contribution du royaume de Dieu. Alléluia. Et puis, on peut considérer aussi que parfois, certains, on l'a vu aussi, des personnes qui peuvent eh bien, être financièrement assez pauvres, mais qui aiment beaucoup l'argent. Vous voyez ? Qui ne vivent que pour ça. Vous voyez ? Je me souviendrai toujours, je faisais comment ça s'appelle, on faisait du porte-à-porte, on parlait du Seigneur, c'était dans une autre ville que cela, et il y avait un monsieur, je pense qu'il avait un petit problème, mais il passait son temps à regarder les cotations au niveau de la bourse. Une fois, on est rentré un petit peu chez lui comme ça, il y avait des piles de journaux, vous savez, le Figaro Saumon, là. Vous connaissez ça, hein? Tu connais, Patrick? Il y a des piles comme ça, des piles. Et je lui dis, mais il faudrait vous occuper de votre âme quand même. Non, il faut que le niveau de cotation, voilà, je vais hériter, on a mis l'argent en bourse, etc. Il vivait dans l'indigence. Mais enfin, l'argent, c'était tout pour lui. Et mes frères et sœurs, nous voulons bien sûr faire attention à toutes ces choses-là et comprendre que la véritable richesse, eh bien, c'est celle eh bien, qui constitue eh bien, la place de Jésus dans notre vie. À lui soit la gloire. Alléluia. Mais ça nous interroge. Ça veut dire que notre œil, notre vie spirituelle ne peut pas capter forcément les choses importantes. Et Jésus dit, mais j'ai placé l'œil dans le corps qui permet de voir la lumière et par la lumière, eh bien, tu es éclairé. Mais si ton œil, si ta vision spirituelle, si ta vie spirituelle n'est pas en bon état, si tu n'arrives plus à discerner ce qui est important ou ce qui n'est pas important, attention, parce que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je n'ai pas envie que mon cœur reste sur la terre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas envie que mon trésor reste entraîné par les choses qui vont passer. Parce que Jésus dira, Matthieu 24, 12, « Le ciel et la terre passeront ». Mes paroles ne passeront pas, oui ou non ? Alors, nous voulons prêter attention. Vous avez remarqué que cette semaine, mes enfants m'ont dit, mais papa, ils me parlent mes enfants. Ils m'ont dit, papa, tu as été matrixé. J'ai dit quoi ? Ton cerveau était matrixé. J'ai dit matrixé, parce que je ne faisais que leur parler de Napoléon pendant un temps. Vous avez remarqué qu'on nous a rebâti les oreilles, hein ? Avec Napoléon Ier, Bonaparte, tout ça. Elle dit, t'étais matrixé, tu fais que nous parler de Napoléon. Bah, ouais, c'est vrai, parce que je me suis intéressé au personnage. C'est pas un péché de s'intéresser à un personnage. Mais moi, je me suis intéressé, quand on parle d'une personne, quel est son rapport avec Jésus ? Oui ou non ? Bon, vous connaissez la fin de Napoléon. Et j'étais surpris, à Sainte-Hélène, exilé, océan Atlantique Sud, il a écrit un livre, La divinité de Jésus-Christ, démontrée par Napoléon Ier, dans lequel il explique que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il explique ses regrets en disant, mais moi je finis misérablement, mais Jésus, il est toujours aimé, prêché, adoré, et son, on a l'impression d'entendre Nebuchadnezzar qui dit « Son royaume ne sera jamais détruit ». Alléluia ! Alors peut-être, j'espère qu'il s'est repenti de ses péchés et qu'il a... De toute façon, la Bible nous dit que tous, même les plus grands, fléchiront les genoux devant Jésus. Alléluia ! Et peut-être qu'il s'est repenti et qu'on aura la surprise de le voir. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, peut y avoir des circonstances dans lesquelles le Seigneur peut nous faire passer, comme Napoléon, et bien des échecs dans lesquels on repense, on rétablit les réelles valeurs du royaume de Dieu, ce qui compte vraiment. Il y a un homme dans la Bible, je voudrais aller avec vous encore dans Hébreux au chapitre 11. Vous êtes toujours avec moi ? Hébreux chapitre 11 et au verset 24, Hébreux chapitre 11, verset 24, un homme dont l'histoire également a retenu le nom, c'était Moïse. Mais Moïse, lui, il a réussi sa vie. Pourtant, il a quitté le plus grand empire qui existait à son époque, c'était l'empire égyptien. Et la Bible nous dit, 11, 24, Hébreux 11, 24, elle nous dit ceci. Eh bien, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et regardez, verset 26 justement, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Il y a des choses qui sont invisibles à nos yeux. On pourrait se dire, mais Moïse, tu rates ta vie, tu aurais pu avoir une place de ministre là, en Égypte, tu aurais peut-être même pu devenir le pharaon d'Égypte. Mais lui, il avait vu quelque chose de plus grand, de plus glorieux. C'est d'être, de faire partie du royaume de Dieu. Alléluia. De travailler pour le royaume de Dieu. Tout sera détruit, tout passera. Une seule chose qui aura commencé sur la terre, durera pour l'éternité, c'est le royaume de Dieu, c'est l'église de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et mes frères et sœurs, est-ce que nous faisons tout pour participer à ce royaume ? C'est la question que je me suis posée. Étant donné que je sais que ce royaume existe, j'y vis. Jésus m'a sauvé, alléluia. C'est plus Satan qui domine dans ma vie, c'est Christ, alléluia. Je sais qu'il est réel, il existe, il est tangible. Je sais aussi que si je ne veille pas sur mon cœur et sur mes pensées, je peux être distrait et passer à côté de ce royaume. Alors je me dis, mais Seigneur, il faut que je veille sur moi-même. Il faut que j'entre dans une dynamique dans laquelle, eh bien, je puisse te servir complètement et servir le royaume. Vous avez remarqué, c'est mon troisième point. Si on revient dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 24, il nous est dit ceci, qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ou on aimera l'un, et on haïra l'autre. Ou on servira l'un, et ou on s'attachera à l'un, et on méprisera l'autre. On peut pas, nul ne peut servir l'un. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On entend dans l'actualité la diplomatie, etc. Mais je voudrais vous dire que on ne peut pas être dans deux camps à la fois quand on veut marcher avec le Seigneur. Il n'y a pas de diplomatie. Une partie de ma vie, je sers le monde. Et une partie de ma vie, je sers Jésus. Il n'existe pas dans le royaume de Dieu de juste milieu. Soit on sert l'un et on méprise l'autre, soit on aime l'un et on haït l'autre. Et c'est pour cela que André, Astrid, Esther, quand on décide de choisir Jésus, on se fait baptiser. Et ça marque un passage. J'étais mort. J'appartenais eh bien, à ce royaume de ténèbres. Mais maintenant, je suis passé de la mort à la vie. Alléluia. Et je vis maintenant pour servir et poursuivre le Seigneur. Alléluia. Et mes frères et sœurs, on veut bien le comprendre. Dieu a pourvu au salut de chaque personne. Ce salut est accessible par la foi, mais le salut, il est en tension permanente avec la tentation et le péché qui existe toujours dans ce monde. Oui ou non ? Ou est-ce qu'il n'y a pas ou il y a que moi qui ai des combats ? Moi, j'ai des combats. Vous n'avez pas des combats, vous ? Je combats avec ma chair, avec l'orgueil, avec plein de choses. J'ai des combats, j'ai des tentations, comme vous. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis en train de douter de cela. J'ai des pensées qui me reviennent sur le passé, etc. Et j'ai besoin de comprendre que, ah tiens, le diable, il est en train de m'attaquer, là. Voilà, il profite d'une situation pour me rappeler. Je prends autorité au nom de Jésus. Non, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et je comprends que j'ai besoin d'avoir une attitude de cœur qui est entière, dans laquelle je suis pleinement investi dans le royaume de Dieu. Alors quelqu'un va me dire, ouais, mais pasteur, ça, excusez-moi, j'emploie un mot moderne, hein. C'est ton job. T'es pasteur. Ouais, excusez-moi, il faut sortir de cette... je suis comme vous, moi. Il y a un appel de Dieu, voilà, et Dieu fait des dons, voilà, etc. Ministère pastoral, ok, très bien. Mais on est tous des enfants de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et mon frère, ma sœur, tu peux travailler dans ta boutique, être derrière ta machine, être en train de faire du plâtre et être pleinement investi dans le service de Dieu. Et mon frère, ma sœur, posons-nous cette question. Est-ce que le royaume de Dieu, je parle aux jeunes, aux moins jeunes, il a de la place dans mes loisirs, il a de la place quand j'observe quelque chose, je vois un feuilleton, je ne sais pas, est-ce qu'il a de la place lorsque je gère mes affaires ? J'ai parlé avec un frère et avec Guillaume, on s'est fait du bien en l'écoutant, il dit, tu sais, quand je vais chez un client, je prie le Seigneur. Et je dis, Seigneur, si ça vient de toi, que ça se fasse. Mais si ça ne vient pas de toi, ben, Seigneur, bloque cette affaire, même si c'est intéressant, même si c'est juteux, etc. Voilà. Et je me dis, c'est ça qu'il faut faire. Gloire à Dieu. Dans mes discussions avec mes enfants, priez comme ça, ou vos petits-enfants. Seigneur, que quand même avec mes enfants, mes petits-enfants, je puisse avoir des discussions qui vont plus loin que pronote. Vous comprenez ? Qui vont plus loin que de parler, allez, on va aller au McDo. Que, Seigneur, on puisse avoir des conversations. Et quand on prie comme ça, on s'aperçoit que le Seigneur, là, il te donne l'occasion de parler de Jésus. Alléluia ! Et je crois qu'il doit y avoir une décision. Et mon frère, ma sœur, mais peut-être quelqu'un va se dire, mais c'est excessif quand même. C'est excessif. On va lire Deutéronome. Je crois que je l'ai marqué à ballot. Deutéronome au chapitre 6e et au verset 4. C'est bon, tu l'as ? Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est la confession de foi d'Israël. Il n'y a qu'un seul Dieu et tu l'aimeras. Il t'aime et tu l'aimeras. Alléluia. Amen. Mais regardez la suite. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Amen. Je me suis arrêté là parce qu'il y a encore tout un développement. Et regardez le verset 12, nous dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu seras entré dans le pays promis, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de nous prévenir que les bénédictions que Dieu nous donne risquent de nous faire oublier que nous appartenons au royaume de Dieu. Et le Seigneur nous dit, n'oublie pas. Et pour que tu n'oublies pas, tu dois avoir dans ta vie une soif, un désir d'apprendre, de connaissance, de la parole de Dieu. Et il nous est dit, mais tout ce que je te dis, ces commandements que je te donne, ils sont dans ton cœur et tu les inculqueras. Vous avez remarqué, nuit et jour, hein, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, et vous avez vu, à vos enfants. Et quand tu pars au voyage, quand tu travailles, hein, c'est ça, hein, dans ta maison, en voyage, etc. Mais quel que soit le lieu, mais tu appartiens au royaume de Dieu. Alléluia. Et permettez-moi de vous poser, et on se pose cette question. Est-ce que nous, on agit comme ça? C'est pas accusateur, hein. Pas accusateur. Peut-être que ça peut réveiller quelque chose. Ou juste, qui est-ce que je sers? Josué, lorsqu'il sera entré dans le pays promis, et qu'il va bénir le peuple d'Israël, la conquête est pratiquement achevée du pays, du territoire de Canaan. Et il dira ceci, Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et il dira, « Je ne sais pas ce que vous allez faire. Le Seigneur quand même me laisse entendre que vous êtes un peuple au cou raide. Vous pouvez avoir le cœur léger. Mais moi, quoi que vous fassiez, quoi qu'il arrive, nous, déjà, en amont, moi et ma maison, on a pris une décision, une position, on va servir l'Éternel. Alléluia. Les gens qui vont être issus de Josué ne vont pas être des sacrificateurs, ils ne vont pas aller, entre guillemets, être des pasteurs ou je ne sais pas quoi, des gens normaux, ils vont avoir leur ferme, ils vont avoir leur travail, ils vont avoir leurs occupations, mais en tout, ils vont servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils servent le royaume de Dieu. Et peut-être que ce matin, on a besoin de prendre une position en disant, Seigneur, qui est-ce que je sers? Est-ce que je sers les intérêts du monde? Moi, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, j'étais ado. Et puis ensuite, j'ai lâché la main de Dieu pendant des années. Et quand il m'a rappelé le Seigneur, en 1996, 2 ans plus tard à peu près, l'appel au ministère qu'il m'avait donné quand j'étais ado est revenu et je suis entré dans le service de Dieu et je me suis fait cette réflexion quelques temps plus tard en disant, mais Seigneur, tu m'avais appelé et pendant des années, au lieu de te servir toi, c'est pas toi que j'ai servi. Parce que vous savez, si on s'en rend pas compte et qu'on se met pas à servir le Seigneur, c'est le camp adverse qu'on sert, hein. On laisse passer des choses, la drogue, les machins, les trucs. Mais qui c'est qui est glorifié là-dedans? C'est Satan, hein, qui veut détruire les âmes. Et je me souviens avoir dit, mais Seigneur, je te demande pardon pour ce temps perdu. Alors, le Seigneur a consolé mon cœur parce qu'il nous a dit ceci dans le livre de Joël, que Dieu est celui qui rattrape les années. Alléluia! Amen, hein. Il rattrape les années, le temps perdu. Alléluia! Gloire au Seigneur! Mais il me semble que c'est le temps, et je termine, dans notre génération, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et l'Écriture nous dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Il y a une intention d'amour là, de chercher le royaume de Dieu, c'est de mettre le Seigneur en premier dans nos vies, c'est de laisser Jésus à la première place, de dire mais Seigneur c'est moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et peut-être déjà quand je suis en train de vous dire ceci, de chercher le royaume de Dieu, de chercher à le faire passer, vous avez vu déjà le mot chercher, ça veut dire qu'il y a un combat, il y a une recherche, il y a une décision. C'est pas acquis. C'est pas quelque chose, on l'a décidé et puis c'est bon. Non, il y a une volonté, il y a des combats contre soi-même, contre sa chair, contre ses pensées, contre son langage, contre ses fréquentations, contre sa façon de faire. Mais on dit, mais Seigneur, il n'y a rien de mieux que de vivre dans ton royaume, alléluia. C'est là où il y a la justice, c'est là où il y a la paix, c'est là où il y a la joie, alléluia. Oui ou non? Amen. Mais vous êtes heureux d'appartenir au Seigneur? Moi, je suis heureux le matin de me réveiller, de me dire... Gloire à toi, Seigneur, je t'appartiens. Amen, alléluia. J'appartiens à Jésus. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette journée, mais Seigneur, tu règnes dans ma vie, alléluia. Je n'ai pas peur. On l'a chanté tout à l'heure. J'élève le nom de Jésus sur la dépression, etc. Oui ou non? Amen. Mais c'est glorieux. Mais peut-être qu'une petite voix est en train de se dire, te dire là, ouais, mais enfin, attends, pasteur, il faut que je m'occupe de ceci, il faut que je m'occupe de cela. Tu vois la rentrée des enfants, tu vois, il faut que je voudrais... Vous avez remarqué, hein? Le vêtement, la nourriture, le logement, etc. Je voudrais te dire, moi je l'ai marqué là. Jésus te dit, arrête avec ça. Arrête avec ça. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Arrête avec ces choses. Hier, en préparant ça, après la réunion de jeunesse, je me suis souvenu de ce que... comment dire, de ce que, d'un témoignage que Guillaume avait donné concernant cet Anglais là qui s'appelle George Muller, les expériences qu'il a fait par la foi, Patrick, hein, tu t'en souviens, hein, de cet homme qui vivait par la foi au niveau de l'argent, il n'avait rien. Et j'ai lu de nombreux témoignages dans lesquels, au dernier moment, quelqu'un est venu pour lui donner les shillings qui lui manquaient pour finir la journée. J'ai même lu ce témoignage dans lequel il disait il me manquait 42 shillings. Il a prié le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin de cet argent pour faire vivre l'orphelinat, etc. » Il y a une dame qui est venue, une chrétienne, et lui a dit « Monsieur Muller, vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas ?» Il a dit « Écoutez, madame, j'ai promis au Seigneur que je ne ferai jamais mention de mes problèmes, sinon à lui. Donc, je ne vous dis pas que j'ai des problèmes d'argent. » Et elle lui dit « Mais moi, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que vous aviez besoin de 42 shillings. » Bam ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Cherchez premièrement le royaume de Dieu ! Ce qui compte, alléluia ! Amen ! Tony, alléluia ! C'est qu'on soit dans le royaume de Dieu. Notre réussite, ce n'est pas la réussite selon ce monde. Notre réussite, c'est d'être fidèle, c'est de marcher par la foi, et c'est que Jésus règne, alléluia, et il ne nous abandonnera jamais, alléluia. Je termine sur une dernière référence, parce que je l'ai dit, je l'ai noté. Connaissez le roi Salomon, qui avant de commencer d'entrer dans son règne, a eu une prière exceptionnelle. Hein. Il devait régner à la suite de David. Moi, j'aurais été dans mes petits souliers, hein. Celui qui a gagné Goliath, celui qui a étendu les frontières du royaume, qui a battu les Philistins et les uns et les autres, etc., qui a consolidé le royaume de Dieu, un homme à qui Dieu a parlé, qui chantait à la gloire du Seigneur, et il aurait pu lui demander la victoire sur ses ennemis, de la richesse, etc. Et il lui a demandé simplement une chose. « Seigneur, donne-moi de l'intelligence, de la sagesse, pour que je puisse conduire ton peuple. » Et un roi 13 dit ceci, « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil, qui soit ton pareil. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Et peut-être que, et certainement, c'est une parole de sagesse. Vous savez, il y a des dons spirituels, hein, une parole de sagesse. Comment conduire sa vie? Comment faire pour que notre vie soit bénie? Parole de sagesse, cherche d'abord le royaume de Dieu. J'ai appris que pour faire entrer le maximum d'affaires dans un sac, il fallait commencer par le remplir par les pièces les plus grosses. S'il y a de plus gros, et après, on va du plus gros au plus petit. Faites comme ça, hein. Voilà, les dames qui font les courses me disent oui, c'est comme ça. Voilà. Quand vous êtes à Lidl en train de, voilà, de carburer, que l'autre il arrive, oui, faut comprendre, hein. Et voilà. Et ben, avec le Seigneur, c'est la même chose. Lui, le premier, la chose la plus importante. Et toutes les choses vont découler de cela. Alléluia. C'est ce qui s'est passé, eh bien, pour Salomon. C'est ce qui s'est passé pour nos propres vies. Et il y a une dimension, eh bien, d'amour. Alléluia. Nous voulons construire notre vie, eh bien, sur le Seigneur. Alléluia. Alors, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Vous êtes d'accord ? En disant, Seigneur, je veux chercher ton royaume. Si tu as pris une décision en oubliant de prendre pour repère le royaume de Dieu, demande au Seigneur de te permettre de rétablir les choses, de remettre, comme on l'a dit, les bidons d'aplomb. Et vous le savez, notre Dieu, il ne se lasse pas de pardonner. Ce que le Seigneur veut, c'est ton succès, c'est ta victoire, c'est que tu réussisses ta vie. Et comme je l'ai dit, il est même capable de rattraper les temps. Mais il doit y avoir une prise de position. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On veut servir le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes sous ton regard et nous te disons merci. Seigneur, te rendons grâce pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. Seigneur, pour nos familles, pour nous-mêmes, personnellement, le travail, la profession. Seigneur, les enfants, les études. Seigneur, le vêtement. Seigneur, la sécurité. Seigneur, toutes ces choses. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, que toutes ces choses, Seigneur, appesantissent notre cœur au point que, comme il est écrit, nous oublions tes commandements. Mais Seigneur, ta parole, elle agit comme une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer jointures et moelles. Et Seigneur, de nous faire comprendre ce qui est passager de ce qui est permanent. Et Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, nous inscrire dans ce qui est éternel, dans ce qui ne passera pas. Ton royaume, ta victoire sur Satan, ta victoire sur le péché, ta victoire sur Seigneur, l'esprit qui règne dans ce monde. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que tu renouvelles notre intelligence, que tu renouvelles mon intelligence, Seigneur mon Dieu, afin que tous ensemble nous puissions chercher premièrement le royaume de Dieu. Seigneur, je te prie pour un frère, une sœur qui est dans un combat, qui doit prendre une décision. Seigneur, et que vraiment il y ait ta sagesse qui pénètre son cœur. En disant, mais est-ce que cette situation, cette décision va me permettre de prier davantage, de te servir davantage? Ou est-ce que ma vie spirituelle, ma vie, mon investissement dans l'Église, est-ce qu'il va ralentir? Seigneur, nous voulons prendre nos décisions, non pas par rapport aux hommes, mais par rapport à toi, Seigneur. Par rapport à toi, parce que nous t'aimons. À toi toute la gloire, Jésus. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, à votre place,